Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savez-vous que le t-shirt que vous portez là maintenant a peut-être fait plus de 40 000 km avant même que vous ne le portiez? Et pouvons-nous y remédier? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous aident, qui nous donnent des idées pour bouger et nous aident à progresser. Si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes meilleures recettes de cuisine. C'est à l'adresse bertrandsoulier.com/bonus et bien sûr vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode dans la description de cet épisode. Bon, maintenant nous allons parler de mode. Bah oui, vous savez que j'ai la volonté de mettre en avant assez souvent des entreprises qui nous équipent et qui nous accompagnent dans notre pratique sportive. Et notamment, j'aime bien faire la promotion du Made in France. J'ai déjà fait régulièrement, par exemple, pour des chaussettes, pour des applications, pour le miel, pour les lacets. Et ben là, on va continuer avec une entreprise qui fait des shorts, qui fait des t-shirts pour nous aider à courir en nous sentant mieux dans nos vêtements. Et quand je dis qu'on est du Made in France, on est quasiment dans du Made in Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est vraiment basé autour de Lyon, hein, un petit peu. Ça sort un petit peu de la région, ça sort un petit peu du pays, mais finalement, pas tant que ça. Vous allez voir comment ça a été réfléchi. Baumollet est une jeune entreprise qui propose du textile de course. C'est technique et c'est éco-responsable. Mais en fait, ça veut dire quoi? Et pourquoi c'est si important pour la planète? Et c'est important pour la planète, mais en fait, on va se rendre compte que c'est aussi important pour notre budget et qu'on peut réfléchir différemment à la manière dont nous nous habillons. J'ai invité Flavien, co-créateur d'entreprise, à venir parler du problème qu'il se passe, du problème que nous avons avec nos vêtements de course, mais en fait de nos vêtements en général, d'ailleurs de tous nos vêtements. Et ce problème, c'est celui de la fast fashion, des modes de production qui font que des vêtements sont produits en masse très très loin, pour pas cher, de pas forcément de très bonne qualité, qui font le tour du monde avant d'arriver dans nos étagères, dans nos armoires, que les collections changent en permanence et que nos vêtements finissent aussi souvent trop rapidement à la poubelle parce que nous jetons chaque année des millions de tonnes de vêtements en France et dans le monde entier. Cette industrie du vêtement pas cher génère ainsi des déchets incroyables tant pour produire les vêtements que pour les transporter que pour ensuite ce que ça génère comme déchets qu'il va falloir retraiter. Alors, sommes-nous victimes de la mode et pouvons-nous courir avec des t-shirts plus responsables? Pouvons-nous avoir une approche plus responsable de nos vêtements? Bah, très probablement, et c'est ce que nous allons découvrir avec Flavien, c'est ce dont nous avons discuté avec Flavien. Et en plus, non seulement le t-shirt qu'il produit, qu'il propose, fait moins de kilomètres pour être produit, mais en plus il est fait à partir de bouteilles plastiques recyclées. Et vous allez découvrir aussi qu'en plus, Baumollet a réussi à s'associer avec un ambassadeur incroyable. Un champion du monde, un vrai. Oui, un vrai. Un mec qui nous a fait nous lever devant notre télévision et rire avec ses commentaires au micro de Nelson Montfort dans les grands événements. Un champion sponsorisé d'habitude par les plus grandes marques et qui prête là son image et son temps à ce magnifique projet. Allez, c'est parti. Bonsoir Flavien.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Super, écoute, merci beaucoup pour l'invitation.
Eh bien écoute, je suis très heureux de t'avoir. Ça fait partie en fait des épisodes où je voudrais mettre un peu le focus sur des marques, sur ceux qui finalement nous équipent hein, pour quand on court. Et je trouve que vous avez que tu as créé, alors tu vas nous expliquer un petit peu l'histoire, etc. de tout ça. Mais c'est une marque qui est sympathique. Et je voudrais que tu j'avais envie de vous présenter, de vous donner un peu la parole pour montrer un peu votre comment vous travaillez en fait. Toi tu arrives à développer tout ça. Alors ce que je vais te proposer c'est de te présenter en quelques mots et puis ensuite on parlera un petit peu de ce que tu fais.
Ouais, avec plaisir. Écoute, moi, c'est Flavien. J'ai 25 ans, je suis originaire de Normandie et je suis l'heureux cofondateur de Beaumolet, que j'ai cofondé avec mon ami d'école, Nathan, qui est lui aussi un nordiste, un Lillois plus précisément. Et donc, on s'est rencontrés dans les études à Toulouse. On s'est rapprochés rapidement pour le sport, pour la passion de la course à pied. Et il se trouve que un peu par hasard, avec une multitude d'expériences à l'étranger, en France, on se retrouve un peu par hasard propulsé à créer une marque de vêtements de running qui veut changer le monde à coups de mollet. Et c'est comme ça qu'on crée Beaumolet, avec la ferme intention en tout cas de proposer une alternative aux passionnés de la course à pied, aux runners, pour leur permettre de courir avec des vêtements qui sont techniques, certes, mais qui respectent aussi les hommes et la planète, avec du circuit court, de la fabrication française, de l'éco-conception, de la co-création, bref, une démarche assez globale où on veut essayer de certes faire de la performance, pardon, mais aussi du bon sens.
C'est un sacré programme quand même, hein, j'ai envie de dire. Alors moi, ce qui m'intéresse quand même, et c'est la question qu'on doit te poser à chaque fois, je pense, est-ce que tu as des beaux mollets ?
Ouais, c'est une bonne question. Je pense que je fais partie de ces mollets qui, en tout cas, sont pas les plus musclés, pas les plus rapides, mais qui ont, en tout cas, qui me donnent la possibilité, en tout cas, de me bouger plusieurs fois par semaine, et en tout cas de faire des petits chronos, de prendre des courses, et ça, c'est plutôt chouette. Mais on est bien loin de ces mollets d'athlètes de très très haut niveau.
Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu es un sportif à l'origine.
Ouais, tout à fait. Passionné de course à pied, alors absolument pas un athlète, un gars qui a fait de l'athlète, qui a un pistard, mais pour autant, ouais, je cours 3-4 fois par semaine, je fais des semis, des marathons, des 10K. Et finalement, c'est aussi ça avec Nathan qui nous a rassemblés de tous ces coureurs, puisque finalement, on est des coureurs, on fait des vêtements pour des coureurs, c'est fait par des coureurs, donc il y a un cercle vertueux qui vraiment nous anime au quotidien et qui forcément nous permet d'essayer de déplacer les montagnes avec passion, puisque on adore ça.
Ça représente quoi pour toi, en fait, de courir, enfin, en fait, tu vois, j'ai envie de me dire, avant d'avoir l'entrepreneur que vous êtes, ouais. Toi et ton pote, je sais pas comment on peut vous appeler, si vous êtes amis et ça.
Pote et coloc, pour la petite anecdote.
Pote et coloc, waouh. Alors dis donc, en fait, on va dire, vous passez toute votre journée ensemble, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue.
Bah, pour le coup, on est sur du 24-24. Donc ouais, totalement. On passe notre temps à faire ça, à bosser pour faire émerger cette petite marque, ce petit poussé. Et il se trouve que l'aventure entrepreneuriale est très prenante, puisque oui, comme tu le dis, en étant en coloc, on bosse 6 jours, 7 jours sur 7 sur ce projet, puisqu'il y a pas mal de choses à faire. Donc ouais, c'est un bon test aussi pour l'amitié, je confirme. Si certains avaient des doutes, c'est plutôt pas mal de mêler l'entrepreneuriat avec l'amitié, mais en tout cas, c'est pas de tout repos, mais c'est passion.
Et alors, quand tu vas courir, finalement, tu penses, tu poses ta casquette d'entrepreneur, ou finalement, c'est quand même, ça te prend toujours la tête, etc.
Je sais pas si ça me prend la tête. Je pense que au contraire, ça me permet de relâcher la pression, parce que forcément, en fait, on a une marque qui est une marque digitale quelque part. Ça veut dire qu'on n'a pas de présence physique, on n'a pas de magasin. Donc, on vend exclusivement sur notre site web. Et donc, forcément, on passe quand même pas mal de temps sur un bureau, un ordi. Et pour des gens qui aiment se remuer les mollets, forcément, c'est assez contradictoire. Donc, en fait, la course à pied fait partie intégrante de notre quotidien, puisqu'elle nous permet de relâcher la pression et de prendre un peu de recul, de trouver des solutions, des alternatives, des problèmes. Et donc clairement, quand on a pas mal de créativité dans notre job de tous les jours, et forcément, en fait, les bonnes idées, elles viennent en prenant les baskets et en allant faire quelques bornes.
Et donc, vous allez courir tous les deux ?
Alors, on a, pour le coup, comme on est en coloc, on a plutôt tendance à courir séparément. Tu vois, c'est comme un couple. C'est important d'avoir chacun sa petite zone. Et en plus, selon les objectifs du moment, les prépas, toutes ces choses-là, on n'a pas forcément les mêmes circuits au quotidien, mais ça peut nous arriver de courir ensemble. Mais c'est vrai que globalement, s'il y a un moment qu'on se garde pour chacun, c'est la partie du sport.
Ouais, écoute, remarque, c'est pas mal, tu l'as dit, hein, faut un moment un petit peu de respiration, etc. Tu dis que t'as fait des 10K, des semis, du marathon, etc. C'est un truc important pour toi de mettre des dossards ?
Ouais. En tout cas, on s'en est tous rendu compte quand on a été privé de dossards avec la période Covid, qui était pas très chouette, tant sur la partie sanitaire, sur la partie santé, que sur la partie événementielle et tout ce qui s'ensuit. puis sur les hobbies. Donc clairement, ouais, ça a beaucoup manqué en fait. Et pendant 2 ans, je crois que j'ai pas pris de dossa. Et on se rend compte qu'avoir une date butoir pour une course, la dernière en date, c'était les 10 km de Villeurbanne. Il y a eu le semi de Paris. Là, il y a ce week-end, au moment où on se parle, il y a le semi, enfin le marathon de Paris. Tu vois, ça fait du bien de pouvoir aussi avoir un objectif, parce que quand tu cours 4-5 fois par semaine, tu fais juste de la petite sortie, c'est chouette, mais c'est vrai que pouvoir se challenger, c'est aussi très très prenant, et c'est aussi une belle manière de se découvrir toujours un peu plus.
Ouais, c'est ce que je dis moi en fait, c'est que quand ça te fout un peu la trouille, tu te prépares beaucoup plus sereine, enfin beaucoup plus sérieusement, hein, que si finalement tu dis bon, je suis là pour m'entretenir, etc. Et c'est ce que je dis souvent aux auditeurs, aux gens aussi qui me demandent des conseils, c'est que le simple fait déjà de dire je vais mettre un dossard et que ce dossard te fasse un petit peu peur, hein, d'aller sur un truc que t'as pas trop fait ou de te challenger un petit peu, bah ça pousse à avoir un entraînement qui est plus sérieux.
Ouais, totalement. Totalement, totalement. Sinon, il y a une petite paresse, hein, finalement. C'est pas toujours plaisant de se mettre dans le mal pour une séance. Après, c'est toujours beaucoup, beaucoup de plaisir, mais d'y aller. Et quand il y a cette petite appréhension, il y a forcément aussi cette belle émotion à la fin de l'entraînement qui arrive et qu'on n'a pas quand on fait son petit jogging classique. Donc, c'est bien de pouvoir alterner et de ponctuellement aussi pouvoir se challenger un petit peu.
Je t'ai pas demandé en quelle année vous avez créé Baume-Mollet, en fait.
Bonne question. Fin 2020, et on a lancé officiellement la commercialisation en janvier 2021, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on existe et qu'on fait nos armes sur cette belle industrie.
Oui, tu vois, et ben moi je vous pensais un poil plus vieux, mais en fait je te pensais aussi un petit poil plus vieux. Alors je veux pas te vieillir, hein, je dis pas que t'as une tête en fait, parce que t'as vraiment pas une tête plus âgée, mais je sais pas, dans ma tête en fait j'avais l'impression de vous voir depuis plus longtemps que ça, mais je sais pas pourquoi.
Bah c'est bon signe pour nous alors.
Bon écoute, hein, ça bon franchement, et alors on le dira mais on va pas le dire tout de suite, en fait pour une jeune marque qui est si jeune quand même, vous avez fait un sacré coup, et on va en parler après, on va pas le dire, on va le garder un petit peu en stock pour l'instant, parce que j'ai des questions quand même à te poser dessus. Mais quand t'es une jeune marque là comme ça, enfin, vous êtes deux jeunes comme ça, vous vous lancez, vous avez dans un milieu quand même où il y a déjà beaucoup de monde, il y a beaucoup de marques, etc. C'est quoi votre truc en disant qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous pensez le truc en fait?
Ouais, en fait, on est parti d'un problème, d'un constat, c'est qu'on se retrouvait pas dans les marques qui étaient présentes sur le marché. Alors, on a été, comme beaucoup, inspiré par les gros mastodontes qu'on connaît. Mais pour autant, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, en fait, qui est assez importante sur la prise de conscience sociale, la prise de conscience environnementale, de pouvoir porter des vêtements dont on peut être fier, en tout cas, et en tout cas, avoir la possibilité de se regarder dans un miroir et dire, en tout cas, voilà, je sais ce que j'ai acheté. Et en toute transparence, je sais ce qu'il y a derrière le vêtement que je suis en train de porter. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'industrie textile, c'est une industrie qui est très très opaque et on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Et c'est pas de la faute des acheteurs, hein, c'est le modèle qui est comme ça. Et c'est vrai que les marques qui produisent loin ont tendance à sûrement ne pas en être fiers, je ne sais pas, mais en tout cas à ne pas mettre suffisamment en avant les hommes et les femmes qui ont permis de travailler sur nos vêtements. Sur les conséquences aussi, parce que produire, c'est polluer d'une manière générale. Quel est l'impact des vêtements qu'on produit et qu'on met sur le marché? Ça, on ne le voit pas trop, en fait. Et force est de constater, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même ce besoin de mieux consommer. C'est pas pour jeter la pierre, mais on a ce devoir de le faire. Et nous, on n'arrivait pas à le faire sur les fringues de running. Et donc, on a essayé de reprendre tout le modèle à l'envers et de partir de l'essentiel, à savoir des coureurs, et d'essayer de comprendre ce qui était important pour eux. Et donc, pour répondre à ta question, c'est comme ça qu'on a créé Baume-Mollet. C'est en partant exclusivement et essentiellement des coureurs, en leur demandant de quoi ils avaient besoin, en tout cas, pour pouvoir courir. Et voilà, qu'est-ce qui était important pour eux pour acheter un vêtement de façon la plus responsable possible. Et c'est comme ça qu'on a un peu tissé tout ce qu'on a fait par la suite chez Baume-Mollet.
Ils veulent quoi, en fait? Alors, je te dis pas de tout dévoiler, mais c'est quoi, finalement, que veut le coureur que vous avez croisé, en tout cas? Parce qu'il y a plein de coureurs différents, mais ceux qui, en tout cas, vous ont répondu.
Aujourd'hui, il y a vraiment 4 choses. Le premier, je pense, qui est vraiment important, c'est que dans un monde actuel dans lequel on parle des enjeux climatiques, il y a cette volonté, en tout cas, de pouvoir comprendre. Donc, il y a vraiment cette volonté de transparence. Je pense qu'aujourd'hui, on ne veut plus acheter n'importe quoi. Donc le premier pilier aujourd'hui qu'on a placé dans la marque, c'est cette volonté d'embarquer avec nous les coureurs, de les embarquer avec nous tant sur les vêtements qu'on fait, la qualité des vêtements, mais aussi comment on fabrique ces vêtements. Le deuxième point, Derrière, savoir ce qu'on consomme, parce que finalement, savoir ce qu'on consomme, c'est le meilleur moyen pour pouvoir passer à l'action et donc mieux consommer et avoir un choix qui est éclairé. C'est derrière d'avoir de la technicité. Quand on est passionné de course à pied et qu'on court 3, 4, 5, 6 fois par semaine, ce qu'on veut, que ce soit pour des pompes ou des fringues, ce qu'on veut, c'est que ce soit des vêtements qui soient techniques, qui soient adaptés à notre pratique et qui puissent durer des années parce qu'en fait, on va investir une somme dans une paire de pompes, dans des vêtements techniques. Donc, ça a complètement du sens de répondre à cet usage de technique, de technicité. Et ça, on ne pouvait pas forcément s'en passer en tant que marque de running qui veut se positionner sur ce marché. Et après, il y a deux piliers qui nous paraissent évidemment essentiels. C'est le pilier donc du local, parce qu'en fait, il se trouve qu'on a un savoir-faire en France pour fabriquer des vêtements. Il y a un savoir-faire historique. Donc l'idée, c'était de dire, en fait, on a toujours produit loin, enfin toujours non, mais en tout cas, ça fait une vingtaine d'années que tous les vêtements qu'on porte dans le sport sont fabriqués à l'autre bout de la planète. 40 000 km pour un t-shirt, c'est la distance parcourue pour un t-shirt classique de sport entre l'extraction de la matière première jusqu'à ce qu'il arrive à nos épaules. Et pour autant, en fait, on se rend bien compte que il y a moyen de faire autrement, il y a moyen de travailler en circuit court, de savoir avec qui on travaille, d'assurer des bonnes conditions de travail aux personnes qui fabriquent nos vêtements, enfin bref, tout ce qui suit derrière. Et il se trouve que comme on a le savoir-faire en France, nous, on est là aussi donc dans ce cas-là pour aligner les planètes, aligner les ateliers français qui ont un savoir-faire, qui essaient au maximum de préserver ces savoir-faire pour leur donner, alors je veux dire du boulot, ils nous ont pas attendu pour continuer à bosser, mais en tout cas, on continue à notre humble niveau de préserver ces savoir-faire. Et quatrième volet, c'est le volet écologique, évidemment. C'est que ce qu'on veut, c'est prendre du plaisir, c'est de fabriquer en toute transparence des vêtements, le faire en France, certes, mais c'est aussi faire en sorte que ces vêtements qu'on fabrique, ils soient fabriqués de façon plus respectueuse pour la planète. Donc, faire attention à la manière dont on fabrique nos vêtements, privilégier les matières recyclées, faire de l'éco-conception, enfin bien penser les vêtements, penser aussi à la question de l'usage et à la fin de vie du produit. Et ça, c'est un gros processus global qui nous permet de dire, nous, en tant que marque, on est responsable. On est responsable des vêtements qu'on met sur le marché vis-à-vis des coureurs. Et vous, en tant que coureur, parce qu'on est transparent, on vous donne le pouvoir de mieux consommer et de vous diriger vers nous ou vers une autre marque, peu importe, mais de pouvoir en tout cas faire de votre part.
C'est intéressant. En plus, je vais te dire un truc, c'est que je suis en train de... Quand je cours, j'écoute le livre de Laurent Goudel qui s'appelle « Intuitio ». Et à un moment donné, d'accord, en fait, dedans, il fait une critique. Il y a un côté écologique. Alors, ceux qui l'ont pas écouté, je vais pas te dire ce qui se passe, mais il y a un côté écologique dedans et il critique la fast fashion, en fait. Il y a vraiment, à un moment donné, un grand truc sur la fast fashion qui rappelle qu'en fait, déjà, les t-shirts, par exemple, que t'achètes, alors, fast fashion, bien sûr, il y a les grandes marques, les Gap, les H&M et compagnie, là, qui sont Zara et compagnie, toutes ces grandes marques comme ça, là, qui ont je ne sais pas combien de sous-marques, mais qui ont toutes les caractéristiques de sortir une collection tous les 15 jours. Et il rappelle un truc, c'est qu'un t-shirt, il fait peut-être 5 fois le tour de la planète. Enfin, entre les matières qui sont faites à un endroit, les transports, le fait que ça circule, etc., c'est incroyable.
Pour le petit calcul, nous, ce qu'on a identifié, c'est que donc un t-shirt, ça dépend des stats, mais voilà, globalement, un t-shirt qui est fabriqué en Asie, c'est 40 000 bornes. Mmh. 40 000 bornes, c'est une fois le tour de la Terre et ça représente 948 marathons.
Waouh!
Et tu l'as pas porté. Et tu l'as pas encore porté. Donc forcément, ça amène à réfléchir et à se dire, mais putain, en fait, on a des ateliers, quoi. On a des gens, tu vois, qui sont peut-être nos voisins, qui ont ce savoir-faire, qui triment pour essayer justement de préserver ce savoir-faire et qui ont ce savoir-faire, enfin, cette possibilité de fabriquer des bons vêtements, en fait. Donc tu vois, le bon sens, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas faire autrement et essayer de raconter l'histoire de ces personnes-là et de ces vêtements qu'on met sur le marché.
Ouais, non, mais l'affiliation après, bien sûr, le discours, on va dire que c'est aussi une voie ouverte par le slip français, on va pas se cacher, qui fait vraiment, qui a été un précurseur dans ce domaine-là, qui a montré que c'était aussi possible.
Ouais, c'est un bel exemple, clairement, et si à terme on pourra nous identifier comme le slip français de la course à pied, ce serait une belle fierté. Ils permettent finalement ils ont permis à leur niveau de démocratiser le Made in France. Il y a eu un effet qui était... Et ça fait un moment qu'ils sont dans le game, dans la course, mais c'est plutôt chouette et on se rend compte que derrière il y a des impacts sociétaux qui sont hyper intéressants, en fait. Donc ça a complètement du sens de fonctionner en circuit court.
Pour ceux qui se posent la question, c'est tout fait en France, sauf le fil, c'est ça?
Exactement. Tricotage, confection, finition. réflexion, on va le mettre aussi puisqu'on est, on est aussi en France nous-mêmes, c'est fait en France. Donc c'est-à-dire qu'il y a 90-95% du coût de revient. Donc tout ce qu'on pouvait faire en France, on l'a fait en France. Et la seule chose qu'on n'est pas en capacité de faire aujourd'hui, pour des raisons de tissu productif qui nous dépassent, hein, nous, en tant que jeune marque, c'est la partie de la filature. Et donc, comme beaucoup de marques de mode durable, mais comme des marques de sport engagées aussi, voilà, on privilégie donc des filatures qui sont soit espagnoles, soit italiennes. Et pour notre cas, vu qu'on est implanté à Lyon, on a privilégié donc voilà, l'Italie avec la région du Piémont à 300 bornes de chez nous.
Ouais, c'est-à-dire que Turin, ça fait pas très loin. Vous êtes vraiment. Et c'est vrai que on peut se dire que c'est peut-être. On peut aller en Italie faire beaucoup moins de kilomètres que si t'allais chercher le fil dans le nord de la France, hein, d'où vous êtes originaire, etc. Mmh. Qui était une région réputée pour ses filatures, mais je sais pas finalement ce qu'il y reste beaucoup.
Il y a des choses encore qui sont existantes. C'est en train de se relocaliser, mais en tout cas sur de la fibre technique. Aujourd'hui, il n'y a pas le savoir-faire en France et il n'y a pas, en tout cas, de filature qui est en mesure de faire une fibre, qui est suffisamment technique, suffisamment qualitative aussi et accessible en termes de prix parce que aujourd'hui, enfin, on va dire que cette triptyque-là, elle est très compliquée à réunir. Globalement, ceux qui s'attaquent à ces problèmes de fond, en tout cas, ce sont en général des entreprises qui sont bien implantées dans l'industrie textile et qui permettent en tout cas de relocaliser au maximum chacune des étapes de fabrication.
Ça quand même, on va le dire, parce que les gens se posent la question, etc. Ça a quand même un coût, hein, qui peut pas négliger par rapport, et c'est parce que la fast fashion dont on parlait tout à l'heure, elle est capable de faire des prix très bas parce que bah il y a un moment donné il y a des choses qui payent très peu cher, et c'est souvent l'humain, hein, l'humain est la variable d'ajustement malheureusement dans ce monde. Le fait de fabriquer en France quand même a un coût qui fait que il y a peut-être des gens quand ils vont regarder le prix des t-shirts, ils vont se dire waouh, ça fait cher quand même.
Ouais, très juste. Le problème de la fast fashion que tu as évoqué, c'est qu'aujourd'hui, elle nous a habitués ou elle a généralisé le fait qu'on puisse trouver des t-shirts en fait à bas prix. Des t-shirts qui certes sont de mauvaise qualité et qui vont vriller au bout de lavage, mais force est de constater qu'en tout cas, quand tu les vois, tu vois juste le prix et le t-shirt en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est marquant. Donc, tu banalises la possibilité d'avoir un t-shirt à 5, 10 ou 15 euros. Sauf qu'aujourd'hui, si tu veux faire du circuit court, faire les choses bien, et que tu veux respecter les hommes et les femmes qui ont travaillé sur ton vêtement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est forcément des mauvais réflexes. Donc oui, nous, quand on sort un t-shirt, il va nous coûter beaucoup plus cher. Aujourd'hui, produire en France d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur comme nous on le fait, ça nous revient entre 20 et 30 euros, selon les quantités qu'on peut avoir.
Et oui.
Donc que ça inclut ton fil, ton tricotage, ton tissu, la confection, la finition. En fait, forcément, comme il y a l'homme qui intervient là-dedans, bah, forcément, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Là où en Asie, forcément, on a tendance à avoir des fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs. Tu sais plus vraiment avec qui tu travailles, pour être honnête. Et forcément, celui qui en pâtit, c'est l'être humain, comme tu l'as dit.
Et après, d'un autre côté, bon, on peut dire, tu peux regarder les prix, puis tu peux regarder à côté les prix de certaines grandes marques qui finalement ont des prix qui sont très élevés aussi, tout en fabriquant à l'étranger. Et notamment, on va pas dire les marques, mais de toute façon, tout le monde regardera ces t-shirts et verra l'étiquette Bangladesh et autres. Mais ça veut dire aussi que vous, pour rester un peu compétitif, il y a aussi une question de marge qui doit se voir différemment, de communication, de... Il y a un moment donné aussi où vous pouvez pas non plus avoir des prix qui soient exorbitants par rapport au marché.
Ouais, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui sont hyper pertinentes. Parlons déjà de la marge. Aujourd'hui, même un t-shirt qui est vendu à 5 ou 10 euros, aujourd'hui, la marque qui a été commanditaire de cette production, elle a une marge qui est de 4, 5, 6. Hein. C'est pas impossible. Là où nous, on a des petits coefs, hein, entre 2, 2,5 et pas beaucoup plus. Donc forcément, aujourd'hui, on est rentable, oui, de facto, parce que on vend nos t-shirts plus cher que ce qu'on les produit. Mais aujourd'hui, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir, par exemple, être distribué, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour nous, en tout cas, qui sommes les fondateurs, de pouvoir en vivre à l'heure actuelle. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à l'heure actuelle, ça fait un an et demi qu'on existe, qu'on permet de rétribuer chaque partie, chaque étape de fabrication. Donc ça, c'est une belle fierté pour nous. Nous, l'objectif à court terme, c'est de pouvoir obtenir cette taille critique, ces volumes qui nous permettront de pouvoir nous rémunérer et d'arrêter les petits jobs qu'on fait à côté de Beaumolet. Donc forcément, il y a un vrai enjeu autour de la marge. On ne pourra jamais avoir les marges que les entreprises de la fast fashion ont. Ou alors, on vendrait forcément 3, 4, 5, 6 fois plus cher. Mais pour le coup, c'est pas non plus l'objectif, puisque ce qu'on veut, c'est quand même laisser nos vêtements les plus accessibles possibles pour les coureurs. Et le deuxième point, derrière, il y a aussi quand même cet objectif, cette vision de taille, c'est que les entreprises qui sont grosses et qui fabriquent en Asie, au-delà de l'histoire des marges, elles ont aussi des volumes qui sont tellement conséquents qu'ils ont cette possibilité, en tout cas, d'avoir des coups d'âge tout à faire, tout à prouver, et on produit à chaque fois des petites quantités.
C'est vrai que cette histoire de taille, on parle dans l'industrie, on parle de taille critique, ça fait partie des choses, mais qui fait qu'aussi il y a des pouvoirs de négociation sur toute la chaîne, finalement, sur même la rapidité d'exécution, même sur tout un tas de choses, qui fait que quand t'as un gros, forcément, on a plus envie de travailler avec toi, donc on peut négocier les prix. T'as tout un tas de choses qui peuvent se faire. Tu sais, il y a quand même un truc auquel je pensais aussi, je pense à tous ces t-shirts de course qu'on a tous, tu sais, je suis sûr que t'en as plein tes placards
les
quand tu fais une course. Ouais, les t-shirts de finisher. En fait, l'autre jour, j'ai lu des choses sur le coût écologique, en fait, que ça a aussi, tout un tas de trucs autour du sport, etc. Mais ces t-shirts de finisher qui nous sont offerts, là, franchement, ça fait partie aussi d'un truc. Alors, c'est pas de la fast fashion, mais quand on regarde où ils sont produits, quand on regarde un petit peu comment c'est fait, eux aussi, ils ont fait le tour du monde avant d'arriver.
Bien sûr, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il y a un vrai enjeu autour des organisateurs de courses pour essayer de faire en sorte de réduire leur impact. Et clairement, le choix des goodies est un des leviers qui peuvent activer. Et forcément, distribuer des t-shirts qui ne vont pas être forcément portés et qui vont finir au fond de notre armoire, on peut se poser la question de leur légitimité, en tout cas dans les packs. Certes, ça fait plaisir de garder des souvenirs, mais il faut aujourd'hui aussi forcément se poser la question de ce qu'on va garder, de ce qui va être vraiment utile. Et pour le coup, oui, notre avis, c'est que donner systématiquement un t-shirt, ça, pour le coup, il faut arrêter. Après, un système d'options, je pense que les organisateurs sont vraiment en train de réfléchir à voir ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils enlèvent totalement le t-shirt? Est-ce qu'ils mettent un système d'options pour permettre aux gens d'avoir peut-être un meilleur t-shirt, peut-être de mettre un peu plus les moyens dans ce t-shirt, c'est une alternative, et de se dire, en fait, si je mets une option avec peut-être un petit surcoût, mais que j'achète un beau t-shirt et que je suis sûr de porter, la démarche sera beaucoup plus vertueuse que de le fournir d'office à des gens qui n'ont peut-être rien demandé en amont.
Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que la démarche, elle est peut-être de se dire que finalement, sur des options, alors. De toute façon, quand on voit le prix de certaines courses, les marathons, tu parlais du marathon de Paris, etc., il y a probablement des gens qui sont prêts à mettre un prix sur un t-shirt qui soit vraiment de bonne qualité, qui soit encore plus beau, etc. Je pense, dans des packs un peu peut-être premium, des choses comme ça. C'est pas du tout impossible, mais c'est vrai qu'après, il faut aussi que l'organisateur, finalement, il se dise peut-être qu'il faut un designer qui fasse un plus beau truc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses à faire, je pense.
Ouais, tout à fait. Après, il y a plein de paramètres qui vont faire qu'on va se diriger vers cette solution ou non. En tout cas, nous, en interne, c'est pour ça que, tu vois, on a bien compris aussi ce pain point de la part des entreprises ou de la part des organisateurs de courses, et que finalement, on travaille en étroite collaboration avec notre amie Louise, qui est aussi, en fait, notre styliste sur toutes tous les produits qu'on sort, pour faire en sorte que les produits qu'on sort soient dans la continuité de l'entreprise, de la marque, et puissent finalement parfaitement, en tout cas, plaire aux gens qui vont recevoir le t-shirt, en l'occurrence.
Oui, parce que il faut le dire quand même, c'est que le dernier modèle là, il est quand même, mais je vais pas en parler, on attend encore un petit peu, on continue à faire un peu dans le système. Ils sont particulièrement chouettes, et quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, tiens, moi je me verrais bien courir avec. Donc c'est vrai que ce style, franchement, parce qu'on peut dire les uns et les autres, il y en a qui sont partisans du t-shirt en disant je prends n'importe quel t-shirt, etc. Mais on aime bien avoir aussi des beaux t-shirts confortables aussi, c'est intéressant. Il y a une question sur le prix qui va avec la durabilité, tu en as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que si on augmente le prix du t-shirt, le prix qu'on met dessus, c'est qu'on attend qu'il tienne aussi plus le choc, finalement. J'imagine que ça, par contre, ça joue sur plein d'éléments pour vous.
Bien sûr, en tout cas, nous, le créneau sur lequel on s'est positionné, c'est qu'on veut faire des vêtements qui, ok, respectent les hommes et la planète, sont techniques, on l'a déjà dit, mais on veut surtout proposer des vêtements de bonne qualité, des vêtements qui vont durer des années, des vêtements qui vont vous accompagner sur des kilomètres. Parce que quel que soit le coût ou l'utilisation des matières, toutes ces choses-là, ce qui fait que finalement, il y a de la pollution au sens large, ce qui fait que la fast fashion, c'est un modèle qu'on ne peut pas soutenir, hein, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de l'utilisation des matières, c'est surtout qu'on consomme trop, et surtout, du point de vue des marques, qu'on produit trop. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est quand même, dans tous les cas, produire le moins possible. Donc pour produire le moins possible, il faut produire peu de vêtements, mais des bons vêtements.
Et il faut le dire, hein, quand même, on a des armoires qui sont remplies de vêtements dans tous les sens. Nos aïeux, hein, mais il y a un siècle de ça, hein, avaient beaucoup moins de vêtements, vraiment, vraiment beaucoup de moins. Et de toute façon, il suffit de le voir. Moi, j'habite dans une vieille maison. On a racheté la maison de la grand-mère de ma femme. Et on se disait, mais comment ils faisaient pour vivre à 5, 6, tu vois, dans une maison où maintenant on est 3. Et nous, on a l'impression que tous nos placards sont remplis de choses, etc. Et eux, ils avaient des tout petits placards, des trucs avec très peu de choses. En fait, on est rentré dans un truc où c'est vrai, on remplit. Moi, je sais pas, je me rappelais, j'avais des collègues qui me disaient que des fois, ils se rendaient compte qu'ils avaient acheté 3 fois le même pantalon, tu vois, en fast fashion. Y a un truc de dingue quand même dans cette histoire-là.
Bah, je vais te donner une petite stat, Bertrand. En l'espace de 15-20 ans, il faut savoir que ce soit dans le sport ou dans la mode, on consomme par personne 3 fois plus de vêtements. Mmh. 3 fois plus de vêtements qu'avant. Et pourtant, les besoins, les saisons, elles n'ont pas forcément beaucoup plus évolué. Mais pour autant, en fait, on est dans un système où on consomme plus que nécessaire. Et c'est pas, il ne faut pas jeter la pierre. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est toute la société qui a été construite de telle sorte que, bah voilà, il y a plein de marques, qu'il y a plein de marques qui mettent des promos, des Black Friday, des soldes, des trucs qui nous poussent en fait à acheter. Et puis, enfin, c'est assez, je vais pas dire que c'est assez animal, mais en fait, je sais plus combien de publicités on voit par jour, mais en fait, on est exposé à des centaines et des centaines de publicités qui nous font croire ou qui nous laissent penser qu'on a besoin de tel ou tel truc qui vient de sortir à la mode. Donc, on a notre part de responsabilité, oui, parce qu'on est maître de nos actes, mais quelque part, on est aussi quelque part victime de ces marques de la fast fashion qui essaient de nous attirer avec des prix toujours plus attractifs et avec des fameuses fausses bonnes affaires.
Ouais, puis tu sais, moi, enfin, ça me rappelle quand on parle de ça, mais on pourrait penser, j'ai la chanson de MC Solar, victime de la mode, tu sais, qui me remonte en tête. C'est-à-dire que, et pour revenir sur Laurent Gounel, il en parle d'ailleurs, c'est que finalement, aux gens, t'as toujours des nouveaux produits qui sortent, t'as des nouveaux designs, t'as envie d'être à la mode. La mode a été, en fait, il le dit un petit peu, tu vois, c'est marrant de dire que la mode a été inventée justement pour faire toujours consommer, pour que t'aies toujours envie du dernier produit, même si finalement, ça change pas grand-chose. Ton t-shirt, tu le gardes 3, 4, 5 ans, s'il n'y avait pas l'histoire de la mode, s'il est de bonne qualité, il tient le choc. Enfin, s'il est de bonne qualité au départ. Ce qui fait que tu vas moins le mettre, à un moment donné, c'est quand tu vas te dire, il fait un peu ringard, ou je sais pas quoi. Bon, après, nous, on a des problèmes aussi dans la course, c'est quand on change de taille, mais ça, c'est autre chose. Moi, j'ai dû refaire toute ma garde-robe en perdant du poids, et en courant, et en mangeant mieux. Bon, ça, c'est un autre détail, parce qu'à force de perdre 3 tailles, et au bout d'un moment, le short, je suis quand même obligé de le changer, mais moi, tu vois, franchement, quand je regarde mes affaires, elles tiennent bien le choc. Mais c'est vrai que cette histoire de mode, quand même, c'est-à-dire qu'il y a aussi un côté où faut aller sur un style. Tu parlais tout à l'heure de style, de design, où faut être, je sais pas si on peut appeler ça intemporel, mais faut se placer quand même sur un truc en se disant ça va durer quand même sur plusieurs années, quoi.
C'est ça. Il y a la qualité, il y a le style, et le meilleur moyen, en tout cas, de ne pas être démodé, c'est de ne pas suivre la mode et de faire des intemporels. Donc en tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien avec Beaumolet. Peut-être qu'on ira peut-être prendre plus de risques plus tard sur le côté style, mais aujourd'hui, tu vois, quand tu vois les gammes qu'on développe, on va vraiment à l'essentiel d'un point de vue style, c'est-à-dire qu'on va chercher du style pour chercher des belles couleurs, certes, mais on prend des belles couleurs qui nous paraissent, à nos yeux, intemporelles, qui nous paraissent être des basiques. Et en plus, pour être honnête, on n'est pas en train de regarder les derniers bouquins de mode, donc en fait, pour le coup, on s'éloigne en fait de tout ce penchant autour de la mode, de dire bon, c'est la mode des treillis ou des trucs un peu militaires, ben on va faire des t-shirts militaires. C'est clairement pas le but.
Ouais. Ouais, bon, moi, ça me va bien de pas faire des t-shirts militaires. C'est le jour où c'est la mode, que tout le monde se met à courir en t-shirt militaire. Je t'avoue que il y a un moment donné, j'aurai un petit doute sur le truc.
Je donne pas vraiment envie de courir en militaire en plus.
Ouais, tu sais, moi je privilégie le positive running. Je dis, il faut courir avec le sourire. Quand tu croises quelqu'un, tu dis bonjour, t'as un grand sourire, etc. Tu vois, je lutte contre les gens qui me souhaitent bon courage quand je vais courir. Si d'un coup je me retrouve dans un peloton où tout le monde est habillé en truc militaire, technique militaire, je me dis bon, là il y a un truc qui cloche. Bon, tu vois, alors là-dessus, c'est clair. Ouais. Mais non, mais c'est vrai qu'après ces histoires de mode, en plus on se rend compte que ça change, que ça revient, etc. Qu'il y a des espèces de rotations. Et là, on parle des vêtements, mais si on parlait des chaussures, des baskets, c'est aussi fou, hein, la rotation. Chaque année, il y a des nouveaux trucs, des nouveaux matériaux, des nouveaux trucs, etc. Et on se rend pas compte. Et un jour, il faudra qu'on fasse un petit épisode là-dessus. Et j'ai une petite pensée à quelqu'un qui sait de quoi je parle, mais c'est l'usure des chaussures, le fait de la pollution générée par les chaussures aussi, avec les bouts de semelles qu'on laisse un petit peu partout, les mousses qu'on produit qui sont faites je sais pas d'où. Tu sais, c'est vrai que quand on y pense, finalement, on dit ouais, courir, il suffit d'un short de basket et pas grand-chose. Mais en fait, on se rend pas compte quand même que derrière, selon comment on consomme, l'industrie qu'on a, en fait, les produits, il y a quand même beaucoup de produits qui viennent, qui font le tour du monde, en fait.
Ouais, totalement.
J'ai quand même une question à te poser. C'est que j'ai vu sur le site, alors je sais plus où j'ai trouvé, sur la partie, recyclage, etc. Déjà, les tissus que vous utilisez, la maille, le fil que vous utilisez, etc., est-ce que lui vient d'un de matière particulière ?
Aujourd'hui, nous, la fibre, qui est une fibre de polyester recyclé qu'on utilise aujourd'hui pour faire notre maille, elle est fabriquée donc à partir de bouteilles plastiques post-consommation.
D'accord.
Donc, il y a une filière en fait en Italie qui est très bien établie pour ça et qui nous permet aussi, enfin, je dis nous, mais qui permet aux marques par exemple, de fabriquer des doudounes, de fabriquer des vestes, des pantalons, enfin, plein de choses différentes. Mais en l'occurrence, donc, il y a une filière qui est établie qui permet en fait de récupérer ces bouteilles plastiques que nous on met dans les bouteilles, enfin, dans les poubelles jaunes, par exemple ici en France. Ces bouteilles en plastique, elles vont être collectées, elles vont être nettoyées, broyées, fondues, et avec un processus mécanique, en fait, on va arriver à obtenir un fil de polyester recyclé. Et c'est l'essentiel, en fait, de la matière de notre fibre, en tout cas en polyester recyclé. Et on va rajouter à tout ça un petit peu d'élastane, recyclé ou pas, ça dépend en fait après des cahiers des charges, à hauteur de 9%, qui vont nous permettre d'avoir en fait toute l'élasticité et toute l'élasticité attendue pour avoir un t-shirt qui est légèrement fit, un peu moulant, qui va nous permettre en tout cas de s'adapter pleinement aux courbes du corps. Et ça aujourd'hui, une fois qu'on a dit tout ça, on a tout dit. Une fois qu'on a fait ça, on a tout dit, parce que derrière, c'est à vous ensuite, une fois que vous avez vos bobines de fil qui sont fabriquées, de donner un cahier des charges à votre tricoteur. Donc nous, il est à Bourgoin, et lui demander une fibre, une maille plus ou moins aérée, plus ou moins dense, selon les propriétés que vous voulez avoir, grattée, pas grattée, avec des traitements, bref, ce que vous voulez, et qui va ensuite vous faire du tissu. Et après, vous allez pour décomposer un peu la fabrication de ce t-shirt, vous allez découper en fait dans ces rouleaux de tissu les formes que vous allez ensuite assembler.
Faut le dire en plus, et tu vois, quand tu parles des zones où c'est fabriqué, non seulement c'est en France, mais en plus, enfin, c'est là tu parles de Bourgoin, design Villeurbanne, parce que vous êtes à Lyon, hein?
Lyon Villeurbanne, ouais, tout à fait.
Finition, je vois Saint-Étienne. Il y a juste la confection qui a un bout de bobini, mais il y a quoi? Il y a pas beaucoup de kilomètres entre la région parisienne et Lyon, hein, finalement.
Ouais, mais en fait, très juste, hein. Et en fait, ça va vraiment dépendre des savoir-faire de nos ateliers. En l'occurrence, on a un atelier qui travaillait extrêmement bien la première maille avec laquelle on s'est lancé, la maille du réglo, qui est une maille très très légère, très très aérée. Je crois qu'on peut difficilement faire plus léger sur un produit, en France, je suis même pas sûr qu'il y ait aussi léger que notre réglo. Je crois que le t-shirt, fait moins de 100 grammes, ça c'est une certitude. Mais pour le coup, c'est une matière qui est très très légère. Et en fait, il se trouve que les couturières avec qui on, parce que c'est majoritairement des femmes, mais avec qui on a bossé dans l'atelier de Bobigny, maîtrisaient pleinement ce t-shirt-là ultra light. Et donc pour cette première collection, quand on s'est lancé en janvier, la partie confection était faite à Bobigny. Mais pour la petite anecdote, la deuxième collection t-shirt, l'endurant, le short, le cocon et la paire de chaussettes n'ont rien à voir. En l'occurrence, ça, c'est du Made in Rhône-Alpes, tricotage bourgoin, confection. Pour le coup, c'était même à Rouen. Donc, tu vois, on était dans un circuit ultra court. Et puis, des finitions, donc, comme tu l'as dit, qui sont faites à Saint-Étienne pour la vignette tissée, qui sont des ateliers qui travaillent aussi avec des grosses marques comme le slip français, hein, tu vois. Ouais. Donc, c'est plutôt chouette. Et Lyon pour le marquage, ce qu'on appelle le transfert sérigraphique, qui est la partie où on vient poser le logo ou l'étiquette qui ne gratte pas, justement.
Ouais, et donc bon, ça fait un petit peu de déplacement, mais ça en fait moins. Et c'est vrai que c'est important de le dire aussi, parce que si ça voyage dans tous les sens et que ça se trimballe dans tous les sens, finalement il y a un gain qui est pas si important que ça. Donc là, c'est un point qui était important, je trouve, à s'y aller, parce que finalement, on pourrait presque dire que c'est un produit Rhône-Alpes. Alors, on est dans la même région. Il se trouve que c'est Rhône-Alpes-Auvergne. Moi, j'ai tendance à dire que l'Auvergne n'est quand même pas dans Rhône-Alpes. Mais pour le coup, tu vois, j'ai envie de dire, on est à peu près dans le même truc. Surtout qu'en plus, dans la partie Auvergne, on a quand même en plus des choses dans ces corps de métier qui peut-être un jour vous intéresseront aussi pour ce que vous faites. C'est pas du tout impossible. Donc, vous pourriez presque avoir la région Rhône-Alpes-Auvergne qui vous dirait, bah, tiens, attends, celui-là, c'est ce produit. Presque quelque chose, c'est presque du Rhône-Alpes Auvergne, tu vois, plutôt que du Made in France. On pourrait presque avoir un logo comme ça.
C'est le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Hein. À part le réglo et les paires de chaussettes qui sont faites du côté de la Nouvelle-Aquitaine, l'Endurant, le Cocon, c'est fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour le coup, ouais, on pourrait mettre ce petit logo. Mais en tout cas, c'est une belle fierté parce que ça permet vraiment de travailler main dans la main avec des ateliers à qui on peut rendre visite la semaine prochaine. Demain, enfin voilà, s'il y a un rouleau à envoyer, on est très très agile là-dessus. Donc ça a plein d'avantages qui sont hyper pratiques aussi quand on se lance. Parce que tu parlais de produire loin, bah quand on produit loin, les délais sont aussi beaucoup plus longs. Là, nous, en l'espace de deux semaines, on a été en mesure de préparer cette collaboration sur laquelle tu fais un peu de teasing là. Mais en l'occurrence, en l'espace d'un mois, on a fait un truc qu'on n'a jamais été en capacité de faire, même nous en France. Et puis si tu faisais au Portugal ou en Asie, il faut même pas y penser quoi.
Ouais, et c'est vrai que tu parles de la collection, c'est impressionnant quand même ce que vous avez fait. On va y venir, mais moi je laisse encore un petit peu. J'avais quand même un truc, tu sais, parce que on en parlait juste avant de commencer à enregistrer. En fait, dans le Made in France, il y a quand même le Made in France et Made in France. Enfin, c'est vraiment et puis on le voit alors dans certaines industries, mais ça dans la course on le voit aussi. C'est ceux qui sont faits conçus en France mais produits à l'étranger. Et qui finalement le disent pas trop. Hein. Il y a des et on le trouve dans les équipements, on peut le trouver dans les sacs qu'on porte, on peut le trouver dans plein de choses. Où finalement, oui, la conception est française, oui, il y a une partie qui peut être faite en France, mais il y a quand même des fois des choses qui sont quand même faites loin, 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 quoi. Ça vous fait pas enrager des fois d'avoir des marques comme ça qui se disent un peu made in France et qui finalement sont pas si made in France que ça?
Forcément, designé avec amour en France et produit en Asie, bon, on n'est pas forcément fan de ces appellations-là et c'est ce qu'on combat, non pas en jetant la pierre à ces marques-là parce qu'on n'a pas envie de dénigrer, mais pour autant, nous, la partie du job qu'on va faire chez Beaumolet, c'est plutôt de donner les clés, les clés de compréhension pour essayer de comprendre en tout cas ce qu'est pour nous le Made in France. Après, il y a des choses qui sont encadrées. Et dans ce cas-là, bah, c'est pas de notre sort. Hein. Il y a des entités qui sont là pour justement, comme la DGCCRF, qui sont là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus en fait pour le coup. Mais nous, de notre côté, voilà, c'est de vous donner les clés en tout cas en tant que coureur. Bah voilà, vous voulez savoir ce que c'est du Made in France. Bah nous, notre vision du Made in France, oui, ça va pas être le dessin clairement. C'est le dessin, c'est le tricotage, la confection, la finition, enfin tout ce qu'on peut faire en France. En fait, c'est où on fait du Made in France à fond ou on le fait pas quoi. Mais et si on le fait pas, c'est que derrière, c'est plus un argument marketing.
Faut le dire aussi, vous avez pensé à une autre partie et qui est importante, hein, c'est la fin de vie des vêtements. Bon, là, vous êtes une marque, donc vos vêtements, ils sont pas encore en fin de vie. Je sais pas si vous avez eu des gens qui l'ont fait, mais vous avez pensé.
Le plus tard possible.
Voilà, vous l'avez pensé à cet aspect-là. Il y a plusieurs solutions hein, sur la partie fin de vie du vêtement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois que son t-shirt, finalement, on ne veut plus le mettre. Hein, alors, vous, on a compris que la logique, c'est il va s'user le plus tard possible. Finalement, on va le garder le plus longtemps possible. Hein, ça fait partie aussi de dire, yes. Bah, finalement, est-ce que je vais le porter et le porter longtemps, j'ai envie de dire, hein, un peu la démarche.
Ouais, c'est exactement ça. La priorité, en tout cas, c'est de bien produire. Ensuite, c'est la question de l'usage. Donc, faire en sorte de porter ses vêtements longtemps. Donc, pour ça, il faut que les vêtements soient suffisamment qualitatifs pour qu'on ait envie de les porter. Ensuite, en tant que consommateur, coureur, bah, c'est de prendre soin de ses vêtements. Donc, pas les laisser dans une bannette de linge sale parce que sinon, au niveau des odeurs, ça va pas être cool. Faire en sorte de bien les laver, pas à 30 degrés, de pas les mettre dans la machine d'essorage. Enfin, bref, tous ces bons réflexes qu'on a en tant que consommateur, en tant que particulier. Et derrière, forcément, il y a cette question de la fin de vie du produit sur laquelle on a déjà commencé à plancher et sur laquelle vraiment on est à l'écoute pour pouvoir faire encore mieux. La première solution qu'on a à proposer, c'est la partie on va dire seconde main ou CSR. CSR, c'est de transformer en fait ces t-shirts qui arrivent en fin de vie. Si on peut plus les mettre sur le marché de la seconde main, En l'occurrence, par exemple, un kawé. Si demain on fait des kawés, bon, le kawé, tu peux le faire passer d'un coureur à l'autre. Je pense qu'on est enclin à faire ça. En revanche, pour un t-shirt, bon, bah, peut-être que la seconde main, c'est pas ouf de se dire que le t-shirt, il a été porté 36 marathons par ce bon vieux Régis.
Moi, je place celui qui récupère mon t-shirt.
Exactement. Donc là où c'est un peu plus compliqué, la première option que nous, on avait tout de suite identifiée, c'était de travailler main dans la main avec le relais pour dire, bon, bah, on va quand même récupérer ces t-shirts-là et on va en faire ce qu'on appelle des combustibles pour des industries qui nécessitent beaucoup d'énergie. Bah, plutôt qu'on utilise des énergies vierges, on va dire, on va se servir de ces vêtements en polyester recyclé qui, pour le coup, détiennent une forme d'énergie et qui vont permettre de finalement voilà, réduire l'impact de la production de ces entreprises X ou Y. Ça, c'était, on va dire, le truc de base. Maintenant, il y a un vrai sujet pour toutes les marques de mode. Et notamment dans le sport, c'est d'essayer de pouvoir recycler les vêtements pour les transformer soit en nouvel objet, soit en nouveaux vêtements. Et donc ça, c'est un vrai sujet stratégique. Donc transformer nos t-shirts à nouveau en t-shirt à l'heure actuelle, c'est encore trop tôt. Il y a des investissements qui sont faits par d'autres boîtes, en l'occurrence, donc on suit le projet, mais c'est très compliqué dès lors que vous mixez des fibres. Donc en l'occurrence, quand vous faites du polyester avec de l'élastane, c'est pas bon, ça va être très compliqué de revenir à l'état de fibres polyester, enfin c'est trop dur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits avec ReFashion, avec d'autres structures dans l'industrie textile, c'est hyper passionnant, mais aujourd'hui c'est compliqué. En revanche, le point qu'on a à l'heure actuelle, la solution qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on collabore avec une petite entreprise comme nous qui s'est lancée il y a pas si longtemps, qui s'appelle Nolt, qui eux aussi font des vêtements pour les clubs de sport, les clubs d'athlétisme, les clubs de foot, les clubs de basket, enfin, qui ont un positionnement qui est semblable au nôtre, qui fabriquent au Portugal, enfin bref, une belle boîte, et qui eux sont en train de bosser en fait sur une solution. Je crois même qu'elle est officiellement elle fonctionne, qui permet de passer des vieux maillots à des coupelles, des plots. Vous savez les petits plots qu'on peut retrouver sur les terrains de foot, sur les terrains de basket, dans les écoles, qui sont souvent des objets en plastique qui ne sont pas recyclés à l'origine. Et bah, eux sont en mesure de passer d'un t-shirt à justement un plot. Et donc nous on travaille en fait finalement main dans la main pour dire bah voilà, on va être une source de matière pour vous et ce qui nous permettra de revaloriser en fait les vêtements qu'on met sur le marché. Et il y a plein de solutions qui sont en train d'émerger et nous avec notre petite taille, on essaie de voir comment on peut se joindre à ces initiatives là qui nous dépassent à l'heure actuelle mais qu'on espère en tout cas pouvoir porter et supporter.
C'est intéressant hein, parce que tu vois, j'étais en train de regarder un autre site en même temps que tu parlais là sur parce que c'est une marque que j'ai vue sur un marché qui est à côté de la maison, etc. Qui sur son site ils annoncent que en France on jette 600 000 tonnes de vêtements par an. Attention, 600 000 tonnes de vêtements par an. C'est l'équivalent de 60 tours Eiffel. Hein. Pour ceux qui ont fait les l'éco-trail, qui sont montés sur la tour Eiffel pour arriver, dites-vous que vous montez sur 60 tours Eiffel de vêtements. C'est ce qui est jeté. Alors, c'est pas dans le sport, c'est dans le sens au global. Hein. C'est pour ça qu'il y a des initiatives. Alors, tu le dis, hein, ça dépend des vêtements, parce que c'est vrai qu'un pull peut être plus facilement redonné. Il y a des associations qui font ça. On le voit aussi quand même dans la course à pied qu'il y a des associations qui récupèrent les maillots, qui récupèrent des t-shirts pour les faire les donner, pas forcément d'ailleurs en France, hein, qui peuvent voyager dans d'autres pays où ils en ont aussi besoin, hein, on voit ça aussi. Mais c'est vrai que cette solution, je trouve, qui est intéressante, de transformer les vêtements en plots et en matériel, moi je trouve qu'elle est super intéressante aussi, parce que c'est finalement de dire que il y a plein de trucs à imaginer dans ce monde-là, quoi.
Ouais, totalement. En tout cas, on a ce devoir en tant que marque de faire gaffe à ce qu'on produit. Clairement. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, si un jour, aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable vraiment de le faire, hein, sur le port, en l'occurrence, si demain on est capable de proposer quelque chose qui est 100% recyclé, et par exemple, ouais, même 100% recyclable à l'infini pour en refaire des t-shirts, clairement, on le refera. Aujourd'hui, ce qu'on privilégie, en tout cas, c'est de faire durer les vêtements qui durent le plus longtemps possible. Donc, en faisant des bons vêtements, en réfléchissant à la conception, à la confection, en essayant de doubler les coutures au maximum, en essayant d'utiliser des bons fils, enfin, toutes ces choses-là. Et derrière, si on a la possibilité de réparer les vêtements, c'est aussi quelque chose qu'on préconise. En fait, il y a plein de vêtements. Parfois, c'est des petits trous. En fait, il suffit d'aller chez la tante ou chez la mamie ou même de prendre une machine de passer un petit coup de couture et puis voilà, de réparer ses t-shirts vêtements, enfin ses vêtements, ses t-shirts. C'est une alternative qui nous permet aussi de finalement moins consommer.
Et tu l'as dit aussi, hein, c'est vrai que ça repose aussi sur nous en tant que consommateurs, sur le comment on entretient un de nos vêtements. J'ai fait un épisode avec la Chaussette de France et qui est en France hein, aussi, qui a trois, hein, il me semble. On avait parlé des conseils d'entretien en fait, de tout ce qui était les chaussettes, pourquoi il fallait pas les passer au sèche-linge, pourquoi il fallait les laver à 40 degrés, etc. Et en fait, dans ce que tu as dit tout à l'heure, on retrouve exactement les mêmes conseils. C'est-à-dire de dire aussi que la manière dont on conserve, dont on nettoie, etc., ces vêtements aussi, a un impact sur sur leur durabilité.
Ouais, totalement. Aujourd'hui, oui, les marques, on peut leur jeter la pierre. En tout cas, on doit les responsabiliser. Mais oui, en tant que consommateur, on doit prendre soin de ce qu'on a, se poser la question de ce qu'on achète. Et quand je dis prendre soin de ce qu'on a, forcément, ça nécessite d'avoir ces bons réflexes que t'as réévoqués avec la Chaussette de France. Donc voilà, ce qu'on a pu nous dire, c'est que clairement, il n'y a pas de preuves qui montrent que 40 degrés, ça nettoie beaucoup plus votre vêtement. En réalité, 30 degrés, ça fait largement le taf pour nettoyer vos vêtements de sport. Par contre, ce qui est sûr, c'est que des vêtements de sport sont souvent fabriqués à partir de matières plastiques. Donc clairement, le polyester à 40 degrés, ça se dégrade. À 50 degrés, j'en parle même pas, et à 60 degrés, c'est de la bouillabaisse. Donc clairement, ça a du sens de les laver à 30 degrés, de pas les mettre dans des sèches-linges, parce que ça va plus abîmer votre vêtement qu'autre chose. Et évidemment, de faire en sorte de bien faire aérer votre vêtement quand vous venez de le porter, de pas le mettre dans la machine, dans le linge sale, enfin bref, tous ces réflexes un peu évidents en fait qu'on fait en théorie sur d'autres vêtements.
Oui, alors on dit en théorie parce que en fait quand on regarde un petit peu ce qu'on fait avec en plus un peu la paresse, un peu certaines choses, etc. Des fois, on se rend compte quand même quand on discute un peu à droite à gauche que les gens, finalement, on a une tendance à tout mettre dans le truc. Moi, je l'ai fait pendant pas mal de temps. Ma fille, ça la fait rigoler quand elle me voit, elle a 4 ans, elle me voit accrocher mes chaussettes de course, mes t-shirts, etc. Elle sait qu'il faut absolument pas les mettre quand elle me voit là-dessus, donc elle m'aide à les mettre sur le fil. Mais c'est vrai que pendant, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui, finalement, par un peu réflexe, le font pas forcément, tu sais, ce truc-là. Et c'est vrai que, quand tu dis les marques ont aussi un petit rôle à jouer, mais il n'y a pas que les marques, il y a des sites, il y a plein de gens comme ça qui essayent de sensibiliser aussi là-dessus. Et on rentre en plus dans une période, parce que là, on enregistre aujourd'hui, on est le 1er avril, tout le monde se plaint de l'augmentation du gaz, du pétrole, de tout ça, etc. On dit qu'il faut réduire sa consommation d'énergie. Et finalement, de laver à 30, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est... Tout est gagnant, quoi. C'est-à-dire que le vêtement est gagnant, notre consommation est gagnante, la planète est gagnante. Enfin, on a tout intérêt à le faire. En fait, il y a toute une conjonction de facteurs qui font que, de toute façon, il faudra aller vers ça.
Totalement. Totalement.
Bon. Bah, écoute, maintenant, tu sais ce qu'on va faire. On va pouvoir quand même parler de à ce coup que vous avez fait. Mais alors, moi, je trouve ça, c'est énorme, ce truc-là. Quand j'ai vu ce truc-là surgir sur mon LinkedIn la dernière fois, j'ai dit, mais comment vous avez réussi à faire ce coup-là, quoi? Comment vous avez réussi et puis, comment ça s'est passé, en fait? Parce que vous avez quand même un ambassadeur qui est tip-top, quoi. Enfin, comment vous avez fait?
Incroyable. Il est incroyable. Ouais. C'est ce qu'on dit en off à chaque fois et ce qu'on dit entre nous. Est-ce qu'on pouvait vraiment avoir mieux? Je ne sais pas.
Et en fait, je ne sais pas parce que je vois la photo en plus. Je vois la photo, je vois le style qu'il a. Bien sûr, on l'entend parler, mais je vois le t-shirt comme il lui va bien, avec sa petite moustache, avec les cheveux comme ça, la coupe et tout, le look ça lui fait, et puis le personnage que c'est, etc. Je me dis, mais enfin, franchement, comment rêver mieux? Enfin, quel ambassadeur incroyable, quoi. On n'a pas dit le nom encore.
Ben non, je pense que tu fais encore du teasing, c'est très très bien. Mais donc, si je peux peut-être toucher deux mots, effectivement, dire que l'industrie textile pollue, en gros, enfin, je pense que tes auditeurs le savent. Je pense que le message, on l'a vu passer des tonnes de fois à la télé, clairement. Et on parle beaucoup des problèmes, mais ce qu'on constate, c'est qu'on parle pas assez des solutions. Mmh. Et aujourd'hui, il y a plein de petites marques comme Beaumolet qui essaient de faire les choses bien. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne jouit pas d'une visibilité suffisamment importante sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on permet. Et tu vois, c'est vraiment ça le problème que nous, on a identifié derrière le fait que, OK, les vêtements sont fabriqués loin, tout ça, tout ce qu'on a déjà dit. Et donc, en fait, on s'est dit, mais OK, mais si le problème, c'est qu'on n'est pas assez visible, comment on peut être plus visible? Et ni plus ni moins, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est bah, ok, si nous, on ne fait pas assez de bruit, qui de mieux que nous, qu'un athlète, en fait, de très haut niveau, pour diffuser au plus grand nombre et permettre, en tout cas, de démocratiser ces bonnes pratiques, ces pratiques que nous, on essaie de soulever depuis déjà un peu plus d'un an. Et donc, en fait, l'idée d'avoir un ambassadeur, de faire une collaboration avec un athlète, nous est venue un peu comme ça. Et il se trouve qu'on a eu une belle rencontre, des alignements des planètes, faut pas se le cacher, hein. Un alignement des planètes qui est assez incroyable, qui nous a permis de rencontrer à maintes reprises et de faire une collaboration avec Pierre-Ambroise Boss, champion du monde d'athlétisme de 800 mètres, coureur récidiviste, champion du monde de karaoké, bref, un mec en or en réalité, qui est hyper spontané et dans lequel en fait on se retrouve énormément en fait, et qui nous a fait tant rêver par le passé et qui aujourd'hui vous dit moi j'ai envie de mieux consommer. J'ai envie de mieux consommer et il y a plein de petits gestes qu'on peut faire. Et voilà, il se trouve que nous, on est là dans le même temps, qu'on fait des choses à impact, tous les deux, de notre côté. Et que voilà, il y a un alignement des planètes qui fait qu'on arrive à bien échanger avec Pierre-Ambroise, à faire que, en fait, il y a une possibilité d'écrire une histoire ensemble. Et pour le coup, en fait, il y a un alignement parfait des valeurs, tant sur la partie passion, sur la partie engagement, que sur la partie aussi plaisir, qui se ressent aussi, je pense, à travers ces prises de parole à la télé, dans les interviews. Enfin, je pense que Pierre-Ambroise, pour le coup, je pense qu'il est aussi bien, bien reconnu pour ses interviews vraiment très spontanées, très authentiques, pas de langue de bois, quoi. Et nous, ce qu'on essaie aussi de faire à notre humble niveau de notre côté avec Beaumolet, c'est vraiment de démocratiser, OK, les vêtements de running made in France et durables. Mais c'est pas de stigmatiser tous les jours et dire il y a de la pollution, on va tous crever. Enfin non, c'est pas ça le message qu'on a envie de balancer. C'est surtout de dire ok, il y a des solutions et en fait on peut tous se remuer les mollets, on peut tous changer le monde à coups de mollets. Et il y a cette légèreté aussi dans notre communication et en fait il y a eu un alignement entre qui il est et qui on est qui a fait que on se retrouve nous, petite marque Beaumolet, un an et demi après notre lancement, à faire une collaboration et pendant 3-4 semaines là de mettre l'accent en tout cas sur le made in France, sur ce qu'on est capable de faire, avec en tête d'affiche un Pierre-Ambroise qui est finalement le président de tous les mollets en fait, qui nous rassemble un peu tous. On est tous un peu ce coureur spontané, on a tous un peu nos envies, nos ambitions, mais on a aussi tous envie d'essayer de mieux consommer et on essaie tous à notre humble niveau de le faire au quotidien et on trouve que c'est une superbe super personnalité en tout cas qui peut porter ce message de pouvoir en tout cas nous inciter à mieux courir de façon plus responsable.
Ouais, et c'est en fait tous ceux qui suivent l'athlétisme et tout auront sûrement en tête cette ligne droite au championnat du monde à Londres en 2017 où il fait un truc de dingue où tout le monde se lève en disant mais waouh punaise, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, il va se griller, mais non, il avance à toute vitesse, et la dernière ligne droite de magie qu'il fait. Et aussi on a tous en tête ces interviews avec Nelson Montfort sur le bord où il raconte, où il part dans tous les sens, etc. Il a une spontanéité qui est dingue. Et ce qui est magique, en fait, je trouve, c'est que vous avez fait dans votre vidéo là de présentation de votre partenariat, etc. On retrouve vraiment cet aspect de vraiment, comme tu disais, la fraîcheur, la spontanéité. C'est un gars, en fait, on se dit putain, il a l'air sympa, vraiment. Et toi, tu peux me confirmer, voilà. Et en plus, il a le sourire et il donne une image vraiment de joie, en fait, autour de ça. C'est-à-dire qu'il y avait la joie qu'il génère quand il gagne, mais même quand il perd, même quand il... Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il finit quatrième aux Jeux Olympiques de Rio, hein, donc la place à la con, quoi, comme on dit. Mais en fait, même quand il n'est pas dans des super jours, quand même, bon, des fois, il est un peu rognon, bien sûr, mais il a toujours ce sourire, ce plaisir, il raconte des blagues, etc. Il a beaucoup d'humour.
Bien sûr, dans tous les cas, il reste humain, ça c'est certain. Mais en tout cas, c'est le même gars qu'on voit à la télé. Hein. Je confirme en l'occurrence. Enfin, pour le coup, il est tel qu'il est. Et ce qui est plutôt magique, c'est que en tout cas, ce qu'on a ressenti en le rencontrant maintenant il y a quelques mois, c'est que c'est quelqu'un qui est authentique en fait et qui est à fond dans ce qu'il fait. Et nous, pour la petite anecdote, quand même pour l'histoire. On s'est rencontrés à l'occasion d'un événement qu'on avait co-organisé avec Scorchems et Nettoyons Lyon, où en fait on courait on ramasse des déchets. En fait, Pierre Ambroise était l'ambassadeur de cette édition, parce que pour le coup, il démocratise aussi cette pratique du plugging, donc de courir et de ramasser des déchets. Et en fait, on avait eu un fit incroyable, et il se trouve qu'on s'est vu plusieurs fois, enfin, on a fait pas mal de bons moments off ensemble. Et il se trouve que le projet qu'on porte, clairement, il est pleinement aligné avec ses valeurs. Et ce qui est plutôt cool, et tu disais qu'on le retrouvait dans la vidéo, parce que pour lancer cette collaboration, en fait, on s'est dit que le fruit de cette collaboration et de ce message qu'on voulait porter, il fallait qu'il y ait un produit qui découle de cette collab. Donc on a fait un produit à son image, à l'image aussi de sa communauté, de notre communauté, puisqu'en fait on a voulu sortir des sentiers battus sur le design des t-shirts, parce que d'habitude on fait des choses assez minimalistes. Là on s'est dit ok, on va mettre un peu plus de fantaisie, de motifs, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait une collaboration avec un champion du monde. Et donc on se retrouve forcément à proposer des designs avec à Pierre Ambroise, avec Louise qui est notre DA, notre styliste. Il valide 4-5 designs, on les propose à la communauté, on fait voter. Donc forcément, on a un truc qui a beaucoup de peps. À côté de ça, on se dit, bah ok, on va faire toute une activation pour évidemment démocratiser encore une fois les vêtements de running qui sont responsables. Donc on va faire une vidéo, on va faire tel projet. Enfin, on a encore pas mal de surprises qu'on n'a pas encore évoquées. Mais voilà, on lui amène un peu une opportunité de faire pas mal de choses. Et c'est un mec qui est quand même évidemment très 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 occupé par ses entraînements. Il s'entraîne deux fois par jour. Enfin, et qui nous, en toute confiance, nous dit, bah ok, go. Voilà, il y a des choses, on valide, on valide pas, mais on se met d'accord et carte blanche sur la vidéo. Nous, on a fait un peu du beau mollet. C'est quand on fait des vidéos où on présente nos produits, le projet, toutes ces choses-là, on se prend au sérieux sans se prendre au sérieux. En fait, on aime bien mettre des petites touches d'humour, parce que au final, on aime bien. Enfin, c'est comme ça qu'on est aussi dans la vie de tous les jours, et ça fit parfaitement avec Pierre Ambroise. Et pour le coup, il n'y avait pas vraiment de script. Nous, on savait à peu près ce qu'on voulait dire. Et voilà, Pierre qui fait l'aller-retour sur Lyon pour faire la vidéo, qui se laisse un peu guider pour le coup, parce que d'habitude je pense que c'est plutôt lui qui guide sur les pistes, en tout cas en termes de vitesse, qui donne le rythme. Là, il nous a laissé donner le rythme sur la vidéo. Il a donné en plus des superbes idées avec Brian, enfin avec toute la team de Pierre, parce qu'il est pas tout seul, il est très bien encadré. Il est encadré il a créé une structure qui s'appelle Boss 2024, qui doit le conduire en fait au jeu et lui permettre de remporter les JO. De Paris, et il se trouve que en fait ils ont été hyper hyper joueurs en fait avec la vidéo. Et pour le coup, je pense que c'est assez rare d'avoir un athlète qui engage son image aussi, d'avoir en fait joué le jeu sur tout ce qu'on a fait en fait, et il était ok sur l'intégralité des plans, sur l'histoire, sur tout ça. Donc c'est vraiment magique. Et puis ça, en plus de ça, oui, il y avait une belle émulation le jour du tournage. Enfin, bref, on s'est vraiment, vraiment bien marré. Et ce qui est cool, c'est que ça va continuer, puisqu'on va organiser quelques petites surprises pour la suite.
Ouais, et alors attends, moi je crois que dans la vidéo, j'ai cru entendre dire qu'il pouvait faire une remise en main propre à Tour Eiffel ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas entendu un truc dans le genre là.
C'est ça, il faut regarder toute la vidéo pour le voir. Et dans les 5 dernières secondes, ce qu'on est en train d'expliquer aussi, alors on est en train de le mettre en application. Nous, on fonctionne à l'après. Comment ? Donc là, le t-shirt qui est le fruit de cette collaboration, ça veut dire qu'en fait, on va produire que ce qui va être porté, que ce qui va être acheté par les coureurs. Donc en fait, pendant 15, 30 de jours, je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie de notre modèle qui nous permet de produire que ce qui va être porté et de produire justement. On fait des précommandes. Ouais. Donc on attend, on vend les produits avant de les avoir fabriqués. Et quand on aura toute la production, donc il va se passer plusieurs semaines, plusieurs mois, Ce qu'on envisage, c'est de proposer à l'intégralité des gens qui auront acheté ce t-shirt de venir participer en fait à cette remise en main propre, qui sera sûrement au niveau du mois de juillet, je pense, parce qu'avec les meetings et tout, ça a l'air d'être la bonne fenêtre pour Pierre. On va proposer une journée où voilà, on va tous, nous en tant que Lyonnais, on va remonter sur Lyon avec le stock de maillots, et puis Pierre, qui est du coin, qui va du coup nous donner rendez-vous sur une piste. Et puis l'idée, c'est de faire une remise en main propre, pardon, et de faire une petite fête en tout cas, et de pouvoir avoir une initiation aux 800 mètres, en tout cas d'avoir un moment de partage pour essayer de marquer le coup.
Waouh, ça c'est classe. Et puis c'est vrai qu'en plus l'histoire de dire que ça vous placez sur 2024 aussi, parce que JO de Paris 2024, sur l'histoire du durable, etc. Voilà, c'est de dire c'est pas juste un coup dans 2 mois le t-shirt il est démodé, on passe à autre chose. C'est on se projette. Hein, on peut se dire que c'est une manière aussi de se projeter sur les Jeux Olympiques qui sont dans 2 ans. Je trouve que c'est Franchement, c'est vraiment un chouette truc. Et puis, quand j'ai vu, franchement, quoi, j'ai dit, mais Pierre-Ambroise Boss. Et tu sais, moi, j'ai toujours son souvenir quand il parle à son chat après la fameuse finale de Rio où il lui envoie une dédicace à travers les caméras de France Télévisions et compagnie. Ouais. Et tu te dis, là, tu le vois débarquer avec une petite marque comme vous qui est, parce que ces athlètes, ils sont, il faut qu'ils vivent, hein. Ils ont des structures, ils ont des gros sponsors. Souvent, c'est des grandes marques. Et moi, je vois bien avec les sponsors aussi du podcast que j'ai des grandes marques qui vont donner beaucoup d'argent et puis d'autres marques à côté qui peuvent pas mettre les mêmes sommes. Parce que tu le dis, vous vivez pas de ça, vous, avec ton le cofondateur. Donc, vous pouvez pas déjà vous payer. Donc, aller en plus donner de l'argent à des mondes. Vous pouvez pas vous aligner avec les très grosses marques. Et avoir comme ça ce champion du monde avec vous, petite marque à côté, et cette espèce de complicité, je trouve qu'il y a un côté magique et la magie de la création, tu vois. Sur ce coup-là, je dis waouh, c'est juste dingue.
Ouais, non, mais c'est totalement magique et c'est un alignement qui est des planètes. J'aime bien le répéter à chaque fois, mais qui est assez incroyable parce que pour le coup, ça aurait été un an plus tôt, ça aurait été pas possible. Ça aurait été un an plus tard, ce serait sûrement pas possible. Comme tu le dis. Il n'est pas venu chercher de l'argent. On n'avait pas de doute, mais ce que je veux dire, sinon il s'est trompé de porte, évidemment. Et non, on sait que c'est pas le cas. Pour le coup, c'est vraiment l'idée de faire un beau coup, de décrire une belle histoire, puisqu'on a, en fait, il le sait aussi. Il a ce devoir en tant qu'athlète de représenter en fait notre pays et de représenter ce qu'il y a de mieux, pardon, dans notre pays. Alors je sais pas si Beaumolet c'est ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas, le tissu productif. Le savoir-faire de toutes ces personnes en France, il a de la valeur. Donc pour le coup, ça a pleinement du sens de lancer cette collaboration. Donc c'est un t-shirt qui est en édition forcément limitée parce qu'on n'a pas cet objectif de l'avoir constamment dans les stocks de Beaumolet. Enfin voilà, on veut fonctionner sur précommande. Et selon comment fonctionnera cette précommande, peut-être qu'il y aura d'autres histoires qui seront à écrire. Mais en tout cas, c'est une aubaine et tu as raison de le souligner pour une petite marque comme nous.
Ouais, et j'imagine que ça vous fait, en tout cas, je vous le souhaite, hein, que ça vous fasse retomber, qu'on parle un petit peu plus, un peu aussi de vous d'une manière différente, et que ça mette en avant votre visibilité. Parce que ce qui est intéressant aussi, on le disait, hein, c'est l'entrepreneuriat, c'est de créer des choses. Vous êtes dans la création d'une nouvelle activité, de faire fonctionner tout un tissu de production avec des usines qui existent déjà, des gens qui y travaillent, etc. Donc il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent. Et je trouve que c'est un beau truc en plus parce que on parle pas assez du sport dans l'actu, moi je trouve. On est en pleine campagne présidentielle. Je pense que personne ne parle du sport au CNOSF. Ils ont fait un débat sur le sport. Il y a que 3 candidats qui se sont pointés. Et moi je me dis, ils devraient soutenir ce genre d'initiative aussi, tu vois, soutenir les sportifs, soutenir les entreprises qui est autour de toute cette filière là qui était tellement en plus impacté par le Covid et autres. Et tu vois, quand je vois comme cette, parce que ces façons marinières là, c'est chouette, je me dis en plus, enfin franchement, moi je serais la Fédération Française d'Athlétisme, je viendrais vous voir pour en donner à toutes les athlètes, à vous en acheter pour tous les athlètes, tu vois, un truc dans le genre là.
Écoute, on se tient à leur disposition, évidemment, qu'en tout cas on a des demandes de la part des entreprises, de la part des clubs qui se disent prêts finalement à investir, parce qu'on parle d'investissement quand même, parce que c'est une autre manière d'acheter des vêtements, c'est clairement pas le même prix. Maintenant, c'est pas non plus le même message qu'on porte, et je pense que c'est important en tout cas que ça n'engage que moi, mais que oui, les institutions, les équipes qui nous représentent, idéalement, oui, portent des vêtements qui sont fabriqués ici, que ce soit Beaumolet ou autre, en fait, moi je m'en fous. C'est plus l'approche globale de dire, bah voilà, en fait, si on a le savoir-faire en France, autant faire en sorte de faire courir nos athlètes avec des vêtements qui viennent de chez nous. Après, il y a une réalité économique aussi, et on en est conscient. Donc voilà, si on peut se faire petit à petit une place, et que une telle collaboration, en tout cas avec Pierrot, le permet, bah écoute, ce serait une grande fierté, et on s'en souviendra peut-être comme l'élément déclencheur. En tout cas, on s'en rend compte sur les réseaux sociaux d'ailleurs, hein, mais il y a forcément des gens qui viennent nous soutenir, qui viennent nous suivre en disant putain, ce que vous avez fait, c'est cool. Je vous connaissais pas. Enfin bref, donc il y a forcément court terme, des retombées qui sont intéressantes. Puis à long terme, disons que c'est l'avenir qui nous le dira.
Voilà. Ben écoute, moi je trouve qu'en tout cas c'était important de et je trouve que c'est vous avez un beau projet en fait et puis en plus tu l'expliques très bien et c'est agréable de pouvoir parler de ce sujet-là parce que on porte tous des vêtements pour courir. Là tu vois moi une fois qu'on a fini d'enregistrer, je vais aller enfiler mon t-shirt. Enfin je vais en mettre une petite polaire aussi parce qu'il neige devant ma maison devant la porte. Donc là c'est pas le jour à porter un t-shirt comme ça pour aller faire le mariole avec dessus mais on porte tous des t-shirts, des shorts, des chaussettes. Parce que vous faites des chaussettes aussi, hein, faut le dire. C'est short, t-shirt, chaussettes hein, pour l'instant. Hein.
Exactement.
J'imagine que vous aimeriez aussi petit à petit peut-être aller sur d'autres produits. Tout à l'heure, tu parlais un peu, il peut y avoir des coupe-vent, les kawaii, on pourrait parler du sweat pour après l'entraînement, des choses comme ça. J'imagine que y a la communauté aussi doit vous faire des retours là-dessus parce que tu le disais et on n'en a pas parlé finalement de cette histoire-là de la communauté. C'est que vous avez un aspect co-création, c'est-à-dire que vous avez des formulaires, les gens peuvent donner leur avis, voter, etc.
Yes, en fait, on a énormément besoin des coureurs. Nous, on est deux petits jeunes. On n'a pas d'agence, on sous-traite pas grand-chose. Il y a un copain qui nous aide pour les vidéos, on a Louise qui nous aide pour la partie stylisme. Les photos, c'est fait par Nathan, enfin, donc on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Donc s'il y a un truc sur lequel, finalement, pour le coup, on se repose sur quelqu'un d'autre, c'est sur la partie, finalement, création, au sens très, très large, de dire, mais OK, comment on va arbitrer les produits qu'on va lancer cette année. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on lance un produit, il est co-créé en fait par la communauté. Donc très concrètement, d'une manière très très large, en chaque début d'année, je peux dire maintenant chaque début d'année vu que ça fait un an et un petit peu plus qu'on existe, donc je peux le dire, mais en janvier-février en fait on a administré un questionnaire à toute la communauté qui nous suit parce qu'en fait on a pas mal de gens qui nous suivent, on a balancé des questionnaires sur les réseaux sociaux pour définir en fait quelle serait la collection 2022. Donc en fait nous on a un panel de on va dire de vêtements qu'on est en capacité de faire par rapport aux matières qu'on a été capable de sourcer, des ateliers qu'on a été capable de sourcer. Derrière bah quand on a 15 ateliers, on va pas pouvoir tout faire parce qu'on est deux petits jeunes, donc on a des moyens limités, qu'on est autofinancé. Bah OK, bah qu'est-ce que vous voulez qu'on développe en priorité? Et ça nous permet déjà d'avoir le point de départ de la collection 2022 début 2023. La deuxième étape, c'est de dire OK, quand on a retenu nos 5 produits de l'année, OK, on va faire un focus sur chaque produit. On va discuter avec des tonnes de coureurs. On va les arrêter au parc de la Tête d'Or, au parc Montsouris à Paris. Enfin, bref, on va arrêter des coureurs dès qu'on les voit. On va commencer à essayer de récupérer leurs coordonnées, de discuter avec eux 10, 20 minutes, 30 minutes sur le produit en question qu'on a dans la tête, là. C'est de découvrir un peu les grandes directions, sur lesquelles on doit un peu plancher pour savoir, c'est quoi votre short idéal? Parce que ça, c'est un short avec un cuissard intégré, pas de cuissard, des poches, pas de poches, la taille, enfin, on va commencer à défricher un petit peu. Mmh. Et puis, on va pousser un peu des études, on va dire, plus dites qualitatives. Et une fois qu'on arrive à comprendre les grandes tendances, on va bosser avec Louise, sur différents shorts. Et puis derrière, on va faire un questionnaire quantitatif qui va venir permettre de passer de cet aspect très qualitatif avec des pistes à quelque chose de beaucoup plus statistique, qu'on prend avec des pincettes évidemment, mais l'idée étant de dire on a discuté avec une dizaine de coureurs pour tel produit, une dizaine de coureuses pour tel produit, OK, passons le truc un peu à l'échelle, faisons de la co-création un peu plus globale et validons les différentes hypothèses qu'on a vues auprès des coureurs. On a vu qu'il y avait le cuissard qui plaisait, qu'il y avait des gens qui voulaient des shorts très très minimalistes, on fait nos questionnaires et on les balance en fait sur tous les réseaux sociaux. Et ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que la communauté prend le temps de répondre, prend le temps de partager. Et c'est ce qui nous permet en fait de fil en aiguille, avec pas de moyens marketing parce qu'on n'a pas de moyens, de commencer à se faire un petit trou dans l'industrie du running et de discuter avec des centaines de, enfin maintenant c'est plus des centaines, mais c'est avec des milliers de coureurs, et de comprendre au mieux leurs attentes. Et c'est là que la magie opère en fait, c'est que quand on écoute les coureurs, qu'on met les coureurs au centre de la démarche, on se rend compte qu'on peut créer une marque qui a du sens.
Ouais, et c'est vrai que c'est important dans l'esprit des marques numériques. Tout à l'heure, on parlait du site français qui était ce qu'on appelle une DNVB en fait. Hein. C'est une marque qui naît sur Internet, qui grossit sur Internet et qui a une chance, c'est que on peut dialoguer sur Internet, avoir une communauté, on peut vraiment échanger et avoir tisser vraiment cette relation à condition d'avoir la démarche de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la démarche de le faire parce que, comme tu dis, si vous mettez des questionnaires, vous interrogez les gens, vous regardez un petit peu, pour vous, ça vous rassure aussi sur le fait que vous n'allez pas partir, tomber à côté de la plaque, finalement, proposer des produits qui, finalement, dont personne ne veut. Donc, c'est aussi rassurant pour vous. Et puis, dans votre démarche aussi écologique, c'est aussi très intéressant, finalement, de se dire, on va faire des produits, on va pas produire pour rien des choses. En plus, vous avez la précommande. Donc, l'ensemble en lui-même est vraiment intéressant dans la démarche. Et c'est pour ça que je voulais vous mettre en avant. Parce que c'est vrai que moi, je vous voyais grandir comme ça et tout. Tu vois, j'avais l'impression que vous étiez plus ancien que ça quand même. C'est marrant, hein, les idées à force de vous voir. Et je trouvais la démarche et puis le coup avec Pierre-Ambroise Boss. Bon, je me dis, mais là, il y a un truc qui est quand même de l'ordre de la magie. J'ai envie de te dire quand même, c'est qu'est-ce que vous imaginez? Alors, je te demande pas de dire quel vêtement ou quoi que ce soit, mais il y a un truc que tu te dis, j'aimerais bien faire quand même un petit projet comme ça, un truc que vous avez en tête qui pour l'instant ne semble pas facile à faire, mais vers lequel vous voulez aller.
Tu veux que ce soit plausible ou pas?
Non, en fait, c'est pas forcément plausible. C'est-à-dire, c'est son truc, ça peut être. Je pense pas que tu puisses avoir un ambassadeur plus que Pierre-Ambroise Boss pour l'instant, mais un truc, tu te dis, ça quand même, tu vois, mais peut-être que c'est dans 20 ou 25 ans, tu sais, comme on dit, on travaille dans le durable, etc. Un truc comme ça, tu te dis, putain, on voudrait bien aller vers ça quand même un jour, quoi.
Bah, en vrai, il y a deux choses. Le premier, on va dire, c'est l'aspect communautaire qui me fait vraiment vibrer au quotidien, c'est de pouvoir rassembler les gens. Mmh. Si demain, on a cette possibilité de rassembler des gens dans un lieu, je sais pas si c'est un écolieu, je sais pas encore trop la forme de ce lieu, mais on a en tout cas cette piste de vouloir rassembler les gens en physique, parce que forcément, quand on bosse sur le digital, sur Internet, tout ça, bah forcément, on a une proximité alors qui est très présente parce qu'en fait, on fait beaucoup de questionnaires, on fait beaucoup d'appels avec des clients, des non-clients aussi, au contraire. Ça va énormément nous intéresser. On a beaucoup de liens comme ça, mais il n'y a rien de mieux que de partager un run avec une personne. Donc, demain, écoute, si on est capable de dire qu'on a un lieu qui permet d'exposer du Beaumolais, mais un lieu qui appartient à Beaumolais quelque part, qui permet de rassembler les coureurs, de pourquoi pas faire des séminaires, de faire intervenir des sportifs de très haut niveau, de pouvoir essayer de rassembler les coureurs au sens large, ça serait un très beau rêve. Et écoute, le deuxième qui pourrait être très très cool, auquel je pense, et je parle pas de produit, toujours pour rassembler les coureurs et toujours être dans cette optique d'inciter les gens à se remuer les mollets, ce serait d'organiser une course. Et je me dis, pourquoi pas, tu vois, un truc un peu loufoque, ludique. Après tout, on va pas s'interdire de rêver parce qu'on s'interdit rien en réalité. On pense que si on met un maximum de bon sens et d'énergie, ça peut nous arriver. Donc voilà, on aimerait bien faire une course qui peut réunir, rassembler les coureurs et réussir à se faire chauffer tous ensemble les mollets et passer un bon moment ensemble, quoi. Parce que finalement, après tout, les vêtements, c'est qu'un prétexte pour nous de sensibiliser évidemment aux enjeux du moment, évidemment. Mais ce qu'on aime, c'est avant tout courir et c'est de le faire ensemble.
Ouais, mais écoute, c'est un chouette projet. En plus, on peut dire un truc aussi, c'est qu'à Lyon, il y a quand même un écosystème autour de la course quand même qui est assez intéressant. Hein. Enfin, Lyon et puis autour, hein, si on prend un peu les Alpes, si on va sur Annecy, etc. Il y a deux épisodes ou trois épisodes où on avait Jérôme de Oua, Run. Qui bouge un petit peu les choses. J'avais eu aussi Guillaume Adam sur Run Motion qui est, je crois, Annecy, hein, je crois, dans cette zone-là. Si on prend un petit peu le autour de Lyon, dans cette zone-là, il y a quand même à la fois des entreprises, hein, un peu dans la course. Il y a aussi quelques coureurs qui sont sympathiques, hein, on peut le dire aussi. Donc il y a un petit écosystème autour de la course à pied, du sport aussi, hein, qui s'est créé, qui est intéressant. Et c'est vrai que l'histoire d'un lieu, parce qu'on le voit dans le vélo, on le voit dans d'autres trucs. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment aussi intéressantes et dont les gens ont besoin aussi, en fait. Parce que moi, il y a une des caractéristiques que je croise, c'est qu'il y a quand même plein de gens qui, par exemple dans la course à pied, qui se sentent un peu tout seuls dans leur coin. Et qui aimerait bien des fois pouvoir rencontrer d'autres personnes, en fait.
Totalement, totalement. Et on est à fond là-dedans. Et Jérôme, on le connaît bien. Évidemment, on a fait des petites choses sympas ensemble. Les frères Adam de Run Motion sont juste géniaux. C'est leur appli sans faire de pub, mais que j'ai utilisé pour faire mon petit DK. Donc tu vois, on se connaît bien. Et en fait, c'est un secteur où il y a une vraie globalement, où il y a une vraie entraide, en fait, et c'est assez magique. Pour la petite anecdote, quand on s'est lancé, alors personne ne nous connaissait, évidemment, en janvier 2021, et en fait, on cherchait des partenaires pour faire et un système de pack pour que voilà, les gens qui précommandent leur réglo, leur t-shirt l'original, le t-shirt original de Beaumolet, puissent avoir en fait un système de pack avec des rétributions qui sont le t-shirt plus tu vois une alternative, un shampoing solide, un... Mmh. Et il y avait en fait Run Motion qu'on a appelé un peu par hasard tout de suite, petit coup de tel, et à qui on a voilà proposé une sorte de collaboration, et en fait qui, sans trop nous connaître, sans trop savoir ce qu'on allait faire, sans savoir la communication, le produit, juste en ayant vent de la démarche, qui ouais direct nous ont dit bah ok les gars, go quoi, on fait un truc ensemble. Donc c'est clair qu'il y a, un vrai écosystème d'entreprise dans le sport, d'entreprise dans le running, et ça c'est vraiment chouette, même dans les fringues, donc c'est vraiment cool et c'est vertueux pour tout le monde. Et puis oui, au niveau sportif, ça se remue les mollets à Lyon, hein. Enfin je veux dire, pour avoir couru à différents endroits, clairement les chronos des Lyonnais, c'est assez assez énervé.
Ouais, et j'ai oublié de citer Gorilla aussi dans les marques, parce que j'en suis ambassadeur cette année. Je m'en serais voulu, que j'ai aussi reçu dans le podcast, on avait fait un épisode justement aussi sur les lacets aussi, qui aussi à leur manière finalement, ils contribuent aussi à des produits qui sont déjà qui sont pas chimiques, etc., qu'on va pas acheter si facilement, ça, qui ont une vraie durabilité. Moi je le dis, hein, pour ceux qui se posent la question, j'ai des lacets que ça fait 1400 km qui sont sur mes chaussures, ils n'ont pas bougé d'un poil. je sais pas comment c'est possible, faudrait que je demande un jour comment c'est possible. Et voilà, l'écosystème comme ça global, hein, d'entreprise est assez important. Il y a des jolies choses qui se font, et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, et j'avais dit que je voulais aussi mettre en avant plus c'est les entreprises comme ça qui nous permettent, hein, les uns les autres, de mieux courir, de se sentir un peu mieux dans nos vêtements, de sentir un peu plus fier aussi, parce que on l'a pas dit, mais les vêtements, ça joue aussi sur le sentiment de se sentir un coureur parfois. Il y a beaucoup de coureurs qui se sentent un petit peu imposteurs des fois dans certains trucs, et là d'avoir un vêtement qui, enfin moi franchement, dire attends je porte le t-shirt de Pierre-Ambroise Boss, tu vois, enfin franchement je me dis que ça serait sympa, tu vois.
Clairement, ça rassemble, et au final, c'est un truc qui est hyper intéressant aussi dans les vêtements notamment, c'est que mine de rien, on est grandement aussi défini par ce qu'on porte. Mmh. On se met dans des catégories, il y a ces systèmes de mode, tu sais, il y a la famille des punks, il y a la famille des gothiques, il y a la famille des minimalistes, enfin, bref, tu vois, ces grandes familles. Et finalement, par les vêtements en disent long sur ce que nous voulons, ce pourquoi nous vivons. Donc c'est pour ça que ça a aussi du sens de faire aussi attention à ce qu'on porte, parce que ça véhicule des messages. Et donc clairement, si on peut en tout cas donner envie aux gens de courir en beau mollet, et de leur donner surtout envie en tout cas de montrer qu'en tout cas ils sont conscients de ces enjeux, parce qu'en général quand on achète du beau mollet, ok, on l'achète pour la technique et le style, mais on l'achète aussi pour la démarche. Faut être honnête. Ça a complètement du sens, parce que finalement c'est une manière de véhiculer un message sans le dire.
Voilà. Eh bien, écoute, c'est une très belle conclusion. Tu sais, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de dire où est-ce qu'on vous retrouve. Alors, bien entendu, il y a un site internet, parce que dessus, il y a la boutique. Je vais juste te laisser me redonner l'adresse.
Ouais, c'est www.beaumolet.com. Et beaumolet.com, beaumolet, c'est B-O-M-O-L-E-T.
Oui, faut bien le dire, hein. C'est le jeu de mots, hein. Faut pas se planter, hein, si vous cherchez les beaux mollets. J'ai pas cherché, si on cherchait beaux mollets, peut-être qu'on trouve sur mes mollets à moi, sur mon site à moi, avec mes beaux mollets à moi, j'en sais rien. team mollet fouteux, tu sais, donc ça fait partie des choses comme ça. Vous êtes présent aussi sur Instagram, YouTube, Facebook.
Ouais, écoute, Facebook, LinkedIn, faut le dire, parce que en vrai on a une communauté de coureurs sur LinkedIn, ils sont endiablés ces coureurs, et à chaque fois ils sont là pour relayer les messages, c'est assez impressionnant. Mais oui, tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, vous pouvez nous y retrouver. On a une chaîne YouTube sur laquelle on publie les vidéos qu'on lance sur les précommandes, mais on n'est pas le plus actif. Mais pour suivre les actualités en matière de co-création, suivre les aventures, les coulisses, c'est vrai que le plus simple, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, et sinon direction le site web, et voilà, inscrivez-vous à la newsletter, et dans tous les cas on vous tient au jus tous les deux mois avec un petit mail récap de ce qui se passe, quoi, raconter la belle histoire, les coulisses, tout ce qui se passe.
Il y a une question que je t'ai pas posée, c'est vous livrez France, vous livrez à l'étranger aussi, ou que France pour l'instant?
France et Europe maintenant, l'essentiel de nos coureurs, ça reste quand même 99% des les Français, mais s'il y a des Européens, on peut livrer.
Oh, mais tu sais, nous sommes un podcast. Je parle de nous. Excuse-moi, c'est je suis un podcast international qui va loin. Hein. Nous partons au Canada, nous partons au Norvège, nous partons en Californie, nous partons Mexique, nous partons Russie, Tunisie. Je fais un coucou à tous les pays parce que quand je regarde les statistiques, l'autre jour j'étais content, on était, je crois, attends, j'étais troisième ou deuxième dans la catégorie running en Tunisie, tu vois, un truc dans le genre là. J'ai dit, bah tiens, ça doit être l'effet Iliès, tu sais que j'avais eu dans le podcast il y a pas très longtemps. Et puis après, je vois un petit peu les pays à droite à gauche. Et c'est vrai que j'ai eu le coup, parce que sur une marque ou deux, des gens qui m'envoient un message qui me disent, ah bah tiens, j'aurais bien commandé le produit, ça m'intéressait, mais ils livraient pas. Puis tiens, ils ont ouvert la zone de livraison pour moi, etc. Donc je le dis, hein, c'est pour ça que je préfère te demander, parce que y a des gens qui sont pas en France. États-Unis, je te dis, oui, New York, la Californie, etc., tu vois. Voilà, donc podcast international, hein, on passe les frontières, voilà. En tout cas, écoute, c'était un plaisir de discuter de ces sujets avec toi. Puis c'est vrai que ce sujet de la mode, de comment on s'habille, du message qu'on fait passer, etc., de la consommation, est-ce qu'il vaut mieux acheter un t-shirt de bonne qualité plutôt que 10 t-shirts de mauvaise qualité, je pense que c'est une vraie question que les coureurs doivent se poser, comme on se la pose pour tous les vêtements qu'on l'emporte, etc. Moi, je sais que j'ai décidé de ne plus acheter dans certaines marques de vêtements et je n'achète plus que très très peu de vêtements, que dans très peu de marques, hein, finalement, dans cette histoire-là. Et je crois que aussi ça fait partie aussi des évolutions qu'on va voir, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de la planète, en tout cas à un certain nombre de personnes, et tu prouves que la jeune génération d'ailleurs se préoccupe beaucoup de ça, hein, malgré ce que peuvent dire des fois certaines personnes quand on voit les voyages, etc., parce que tu fais partie aussi des gens qui ont voyagé, hein, faut le dire aussi.
Pour être tout à fait honnête, et je pourrais terminer là-dessus, mais nous, en fait, on a eu l'occasion, alors on n'a pas tant voyagé que ça étant jeune en réalité, mais qu'on a fait une école de commerce avec Nathan. Et en fait, l'école de commerce nous impose de quitter la France. Peu importe où tu vas, la Belgique, ça passe. Et nous, on est parti faire une expérience humanitaire aux Philippines. Et en fait, j'ai fait 6 mois dans une entreprise sociale qui fabrique encore aujourd'hui des peluches made in Philippines. Enfin bref, une expérience incroyable. Et c'est vrai que ça a été en fait un peu le déclic, hein, d'aller là-bas et de finalement constater de ses propres yeux finalement ce qu'on appelle la pollution, la pauvreté, toutes ces choses-là. Et parfois, sortir de sa zone de confort nous permet parfois aussi de redistribuer les cartes et notre manière de voir le monde.
Voilà. Eh ben écoute, sur ce, moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Alors il y a un truc que t'as pas dit. Jusqu'à quand on peut commander le t-shirt la collection Boss là?
Actuellement jusqu'au 17.
17 avril. Voilà, donc en diffusion, on sera juste, hein, donc dépêchez-vous par rapport à la diffusion, mais en tout cas après on pourra avoir tous les autres produits bien entendu, puis les lancements.
À la limite, ceux qui sont en retard qui nous envoient un message, on pourra voir ce qu'on peut faire. Voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau pour tes auditeurs.
D'accord, ça marche, parce que tu vois, moi je regarde mon planning de diffusion, je me dis, ah, on va diffuser le 13, hein, mais tu sais, comme ça on dit, allez, dépêchez-vous, il y a quand même beaucoup de gens qui l'écoutent à la sortie de l'épisode, et puis ensuite on peut le dire, s'il y en a qui ont envie de participer, de d'échanger avec vous, bah il y a les réseaux sociaux, les questionnaires d'ailleurs, c'est pas compliqué, hein, sur le site on voit où sont les questionnaires, on voit à peu près à quoi ça ressemble, la co-création, etc. Donc vous montrez tout. Vous avez même un blog, hein. Je dis même parce qu'il y a beaucoup de marques qui abandonnent leur blog, mais vous avez un blog sur
un petit.
Ouais, mais écoute, le truc, hein, c'est que vous donnez des conseils, il y a quelques conseils sur les choses, et vous parlez aussi de la fast fashion, notamment de faire un petit point sur tous ces éléments-là dont on a parlé, et tu redonnes certains chiffres que tu avais donnés. Donc pour ceux qui voudraient retrouver les chiffres, et ben tu sais, ils vont venir sur le blog, ils retrouveront l'article, ils verront un petit peu aussi il y a même des photos, vous avez montré les photos d'une usine, etc. Donc voilà, je mettrai bien sûr tous les liens. Écoute, c'était vraiment un plaisir discuter avec toi de ce sujet-là. C'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, et moi ce qui me fait plaisir, c'est de pouvoir à la fois aborder le sujet de ce qu'on porte, hein, franchement, et de la planète, et puis de mettre en avant comme ça les entreprises qui nous équipent. Alors Flavien, merci beaucoup, je vous souhaite une très belle continuation à Beaumolet. J'espère que tout va rouler pour vous et que vous arrivez à bien vous développer, et puis surtout que vous allez pouvoir, toi avec ton pote, arriver à vivre de ça, à continuer à développer, à avoir peut-être d'autres ambassadeurs qui vont être tout aussi souriants que Pab, comme on dit. Et nous, eh ben écoutez, on se retrouve très bientôt, enfin non, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, où je vous dis pas qui est l'invité, c'est ma petite surprise, je garde pour moi, mais en tout cas, on continuera à parler de sport, de mouvement, parce que c'est ce qui nous donne le sourire, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous rend heureux. Merci beaucoup Flavien.
Merci infiniment Bertrand, à bientôt.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner bien entendu au podcast, vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcast et tous les lecteurs de podcast, mais aussi si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.